Il est 15h et tout de suite vous retrouvez Olivier Delacroix.
15h, 16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma complice, Ombline.
Bonjour Olivier, bonjour.
Comment
à tous.
Ça va?
Ça va très bien, merci.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu, comme vous le savez, nous intéresse. On estime qu'un enfant à deux par classe serait surdoué en France. Être en avance intellectuellement, précoce, c'est être en décalage, c'est être différent. Déceler la précocité d'un enfant n'est pas simple. Il peut être intellectuellement compétent dans un domaine et parfaitement immature dans un autre. Il peut aussi être un véritable cancre en classe. Il est important d'être repéré tôt pour ne pas subir cette différence. Mais parfois le diagnostic tombe très tardivement, à 30 ou à 40 ans. Des adultes se découvrent des capacités, des réflexions qu'ils n'arrivaient pas à expliquer jusqu'alors. Alors comment vivre avec cette différence? Peut-on en faire un atout? Comment aider son enfant? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et comme chaque jour, vous le savez, vous composez le 39-21, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1, et via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Natacha sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 33 ans et j'appelle de Chartres.
De Chartres. Vous êtes enseignante depuis plusieurs années et vous dites que vous arrivez à voir si l'un de vos élèves peut être précoce. Par quoi cela peut se caractériser généralement?
Au niveau de certains élèves, c'était vraiment, je sentais un décalage.
Oui.
Et pas forcément des enfants qui travaillaient en classe. Mais quand ils s'exprimaient, il y avait quelque chose de différent. Mmh. Il y avait une particularité.
Une maturité.
Oui, une maturité, un langage et des intérêts un peu différents. Et puis aussi une sensibilité. Mmh. Une sensibilité assez exacerbée, mmh, chez certains.
Alors très rapidement, vous avez eu des doutes concernant votre petite fille de 5 ans. Qu'a-t-elle, mmh, fait pour que cela vous mette la puce à l'oreille?
Déjà, toute petite, dès bébé, vers 15-16 mois, elle avait des attitudes, en fait, qu'on voyait en décalage par rapport aux autres enfants qu'on avait autour de nous. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, on a cette crainte d'être perçu comme un parent voyant son enfant comme merveilleux, plus, ouais, intelligent que, mmh, tout le monde, même si la précocité, ce n'est pas exactement ça. Donc on n'ose pas trop en parler. On en a parlé avec son papa et on avait vu, ce qui était assez drôle, on va dire ça, de l'humour chez un enfant, chez cette petite qui avait 15-16 mois, beaucoup d'humour, une grande sensibilité, beaucoup d'empathie.
Oui.
Et puis une envie, à partir du moment où elle a marché, une envie de vouloir découvrir le monde de manière extrême, donc de ne plus s'arrêter, de, oui, ne plus aller dormir. De cacher plein de choses dans son lit et puis de faire que si c'était parfait. Donc par exemple, quand elle a marché, elle a marché quand elle a su marcher et courir. Donc elle n'est jamais tombée.
D'accord.
Voilà. Uh-huh.
Elle a sauté une classe cette année pour arriver directement en CP.
Ouais.
Oui. Mais je crois savoir que vous n'étiez pas spécialement pour au départ. Pourquoi?
Parce qu'elle est de fin d'année.
Oui.
Qu'on la voyait jeune, que du coup, y a des enfants qui vont avoir 7 ans au mois de janvier. Mmh. Et elle n'a pas encore 5 ans. Elle va avoir 5 ans la semaine prochaine.
Ouais, c'est ça, ça fait donc, presque 2 ans d'écart avec ses petits camarades.
C'est ça, on avait un peu peur qu'au niveau maturité, au niveau émotionnel, parce qu'elle est très sensible, ce soit difficile. Et puis aussi, sur ses deux premières années de maternelle, nous, même si on voyait des choses de fait à la maison, elle n'a rien fait.
Ouais.
Voilà, rien, mmh, montré et rien fait, mmh, pendant quasiment 2 ans.
Alors, un jour, la psychologue de votre fille vous a dit que vous étiez peut-être vous aussi précoce. Et une fois que le diagnostic a été posé et qu'il révélait que vous étiez vous aussi précoce, donc ça vous a fait du bien? Est-ce que vous vous êtes sentie soulagée?
J'ai surtout compris certaines choses, compris certains décalages que, oui, j'avais pu percevoir. Plus à l'adolescence, je dirais.
Ouais. Vous vous sentiez très différente à l'adolescence?
Je c'est pas que je me sentais très différente, mais il y avait des moments où je me sentais incomprise.
Ouais.
Très incomprise, mais comme c'était avec l'adolescence, je pensais que c'était normal. Et puis, on me disait que je passais tout le temps mon temps à m'occuper des histoires des grands, des adultes, que ça ne me regardait pas, que je n'étais pas forcément à ma place. Et après, j'avais beaucoup, beaucoup de questionnements. J'étais très attirée sur les histoires de vie des gens et sur le monde qui m'entourait, mais vers 12-13 ans. Et donc, ça me prenait quand même beaucoup émotionnellement et ça pouvait me rendre très, très mal.
Mmh. Au point de penser que vous étiez en tout cas pas en place, que vous étiez vous dites que vous pensiez que vous étiez un peu folle.
Alors ça a été plus tard.
Ouais.
Plutôt à l'âge adulte. À l'âge adulte justement, j'ai commencé à me poser des questions même professionnellement. Donc j'ai fait une demande de congé de formation. Je suis retournée à l'université, ce qui finalement a été extrêmement compliqué parce que je me suis retrouvée face à des résultats qui étaient pour moi pas assez bons, même s'ils étaient dans la moyenne des autres. Et puis face à un renvoi de l'enseignement qui était très violent, des enseignants qui n'étaient pas forcément très sympathiques.
Oui.
Et puis je me sentais encore pas à ma place finalement là où j'étais. Mais ça m'a permis de prendre du recul et aussi prendre du recul par rapport à plein de personnes qui m'entouraient et de me rendre compte que et justement aussi avec ces tests de me rendre compte que quand j'étais avec des gens parfois j'essayais d'être ce que les gens attendaient de moi.
Oui.
Et pas forcément...
Ce que vous étiez réellement.
Voilà, parce que ce que j'étais réellement, parfois, peut-être que mes sujets de conversation ou ma manière de penser n'étaient pas toujours comprises, parce que je parle beaucoup, j'ai une pensée parfois en arborescence, et ça part un petit peu dans tous les sens, et on peut avoir du mal à me suivre.
Vous pouvez finalement être plus loin que les autres, en tout cas en termes de raisonnement. En tout cas, Natacha, je pense que forte de ce diagnostic, vous pourrez éduquer et accompagner votre petite fille de 5 ans en sachant qu'elle est précoce et au regard de ce que vous avez vécu, vous pourrez au moins bien l'accompagner. Merci beaucoup pour votre appel au 3921. Dans quelques instants, nous accueillerons Céline. Son fils de 4 ans a été diagnostiqué à haut potentiel et le quotidien est loin d'être facile à la maison.
Et on a beaucoup de messages sur Facebook, sur le groupe de l'émission.
Mais oui, ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes, en fait.
Et les messages sont longs. Je vais me permettre de lire que quelques extraits. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. L'extrait du message de Chris. Un enfant précoce est une richesse pour nous, parents. Écoutez notre enfant, écoutez la dimension extraordinaire dans laquelle il évolue. Pour l'aider, nous devons laisser tomber les vieux schémas éducatifs.
Europe 1.
Votre enfant est sensible, différent, semble comprendre les choses rapidement. Il est précoce. On vous écoute au 3921. Merci d'écouter Europe 1. Nous parlons cet après-midi des enfants à haut potentiel. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous avons eu Natacha au 3921 qui nous expliquait que sa petite fille de 5 ans était surdouée, en tout cas qu'elle avait été diagnostiquée comme telle, et qu'ensuite elle-même avait été diagnostiquée et qu'elle pourrait au moins accompagner sa petite fille en évitant qu'elle se pose trop de questions et finalement répondre à pas mal de questions. Nous sommes maintenant avec Céline. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Céline.
Bonjour, merci de bien vouloir m'écouter.
Je vous en prie, nous sommes là pour ça. Hein. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Céline ?
Alors moi, j'ai 47 ans et j'appelle de Brunois dans l'Essonne.
Alors, vous êtes la mère de Mathis, qui a aujourd'hui 9 ans. Quand il était plus petit, il faisait beaucoup de crises à la maison, mais en même temps, il posait des questions très matures à son enseignante. On entendait tout à l'heure Natacha parler de sa fille qui était très éveillée dès 16 mois, 15 mois. Racontez-moi comment était Mathis.
Alors, Mathis, tout petit, c'était un petit garçon qui était très curieux de tout, qui nous posait plein de questions, qui apprenait très vite.
Oui.
Et jusqu'à la halte garderie, ça se passait très bien. Il avait hâte d'aller à l'école, puisqu'on lui disait qu'à l'école, il apprendrait plein de choses et il était très content d'enfin pouvoir aller apprendre le monde. Et en fait, quand il est arrivé à l'école, il a été très rapidement déçu parce que je pense qu'il s'attendait à avoir des réponses existentielles sur les questions qui nous posaient sur la vie, la mort, le corps humain, le fonctionnement, les planètes, l'univers.
Il a été très, très vite là-dessus, hein, sur des questions métaphysiques.
Ouais. Hein, ouais. Il a été très vite sur des questions métaphysiques auxquelles on ne pouvait pas forcément répondre avec son papa.
Oui.
Donc on allait souvent sur Internet pour faire des recherches avec lui. On lisait pas mal de livres pour essayer de lui trouver des réponses. Et ben, comme on était pris l'un et l'autre par des activités, c'est vrai que nous, on lui parlait beaucoup de l'école comme un lieu où il pourrait avoir des réponses à ses questions.
Oui.
Et quand il est allé à l'école et qu'il s'est rendu compte qu'on apprenait à compter, chose qu'il savait déjà plus ou moins bien faire, qu'on apprenait à dessiner, ce qu'il n'aimait pas du tout faire, et qu'on ne répondait pas à ses questions, ça a été une grosse, grosse frustration pour lui, mmh. et pour la maîtresse aussi, mmh. parce que... il posait plein de questions qui n'avaient aucun rapport avec le cours qu'elle avait préparé.
Mmh. Il faut dire quand même une chose, hein, Céline, c'est que l'école française mmh. aujourd'hui n'est pas du tout adaptée aux enfants différents. Et je parle de ces enfants en surdouance comme d'autres différences qu'on peut constater chez les enfants. Et qu'il est vrai que voilà, il va falloir faire beaucoup de progrès là-dessus, en tout cas travailler à ce qu'on mmh. intègre de plus en plus ces enfants différents. Quand il a eu 4 ans, Mathis, vous avez eu envie de le faire diagnostiquer. C'était pour trouver un sens à toutes ces crises. En fait, vous parlez de crise, c'était quoi ? Il était un peu hyperactif ? Il était agité ?
Alors, il était très agité. Il n'arrivait pas à dormir le soir. Et dès qu'on lui faisait une réflexion qu'il n'aimait pas, ou dès qu'on lui demandait de faire quelque chose qu'il n'aimait pas, ou dès qu'on devait faire une transition entre... je ne sais pas, il est en train de jouer, il faut aller manger, ou on est en train de faire une activité, il faut aller se laver. Dès qu'il y avait une transition à faire, il n'irait pas. Donc, oui. La moindre contrariété, quand on n'avait pas la réponse à quelque chose, ou quand on était trop lent pour lui, il pouvait faire des crises, mais à retourner sa chambre, à lancer des objets. Dans un centre commercial, si on ne voulait pas lui acheter quelque chose... pouvait se rouler par terre. Alors très rapidement, ben, on a le regard des gens sur nous, sur notre façon d'élever un enfant, sur le fait qu'il est différent, mais que nous, on n'est pas censé savoir qu'il est différent.
Ouais, c'est moi, compliqué, j'avais pas eu d'enfant avant. Ouais. Mmh.
Voilà. Donc c'est vrai qu'on se remet beaucoup en question parce que nous, les réflexions qu'on avait, c'est que vous n'êtes pas assez sévère avec lui. Et quand on était sévère avec lui, ça ne marchait pas du tout, mmh. il bloquait.
Mmh. Vous avez... Céline, vous avez réussi à faire un parallèle à un moment, puisque votre frère a été testé à l'âge de 10 ans et qu'il avait sensiblement le même QI que Mathis. Votre frère a toujours été... vous racontez que votre frère a été toujours à la marge, qu'il a toujours été très malheureux. Racontez-moi.
Ouais. Donc à 4 ans, on a décidé de faire tester Mathis, non pas parce qu'on se posait des questions, c'est parce qu'en fait, on a décidé de l'emmener voir une psychologue pour savoir pourquoi il faisait autant de crises, pourquoi il ne trouvait pas sa place, pourquoi il ne voulait pas à l'école, il ne voulait pas aller à l'école, etc. Et c'est la psychologue qui nous a conseillé, au bout de 10 séances, d'aller faire un test en nous disant « Mathis, a priori, psychologiquement, il va bien, mais je pense qu'il a un haut potentiel, il est surdoué. » Et nous, on ne savait pas du tout ce que c'était avec son papa.
D'accord.
Donc déjà, on a pris conscience que ça existait.
D'accord.
Et ça, on ne savait pas. On a pris conscience que peut-être notre enfant était différent mmh. et que ce n'était peut-être pas notre façon de l'éduquer qui l'avait rendu comme ça. Mmh.
Céline, restez avec nous. On va reparler de tout ça dans un instant. On va parler justement de cette impression que vous avez de vous battre pour faire reconnaître les spécificités de Mathis. On parlera de votre frère aussi dans quelques instants.
Europe 1. Comme Céline, votre enfant a été diagnostiqué à haut potentiel avec un quotient intellectuel supérieur à la normale. Vous nous racontez votre histoire, 39-21. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1. Sont surdoués, précoces, en avance, des petits génies. Nous parlons des enfants à haut potentiel. Comment vivent-ils avec cette différence ? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 39-21 pour nous appeler.
Et nous sommes toujours avec Céline, maman du petit Mathis, qui a 4 ans, a été diagnostiqué comme surdoué. Vous dites, Céline, qu'à partir de ce moment-là, vous avez eu l'impression de vous battre pour faire reconnaître les spécificités de votre fils, que ce soit dans votre entourage comme à l'école. Racontez-moi de quelle manière s'est entamé ce combat de mère.
Oui, parce que au moment où on l'a fait tester, donc on a nous enfin compris que notre fils était différent.
Oui.
On a enfin compris qu'il fonctionnait de façon différente et on a essayé de faire comprendre à notre famille, à ses grands-parents, à l'école, que si Mathis posait autant de questions, était parfois dans la défiance ou se renfermait, c'est pas parce qu'il était mal élevé ou caractériel, c'est parce qu'il avait un fonctionnement différent.
Oui.
Et en fait, on s'est rendu compte que les gens ne comprenaient pas. Qu'on nous dise ah ben c'est super, il est surdoué ou il est précoce, ah ben quand il sera adulte, il aura rattrapé le niveau normal. Mm-hmm. On avait beau dire mais non, quand on a un fonctionnement différent, c'est à vie. Et voilà, nous, et c'est toujours le cas en tant que parents d'enfants différents, parce que c'est clairement une différence, on est tout le temps en train d'essayer de se justifier auprès des autres personnes.
Oui, toujours en train de vous battre, ouais. Pour faire accepter finalement la différence.
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on a cette image d'un enfant surdoué que c'est un génie.
Ouais. On pense qu'un enfant surdoué, finalement, a plein de facilités. Or, il faut prendre conscience qu'un enfant surdoué va se sentir dans de multiples cas en tout cas éjecté d'une situation par les autres, parce que finalement à côté,
parce qu'il s'adapte pas,
ouais.
Parce que c'est un enfant qui peut pas rester assis pendant des heures à écouter quelqu'un. Mmh. Il doit bouger pour apprendre, pour se concentrer. Mmh. Ce sont des enfants qui ont besoin de poser beaucoup de questions, qui ont besoin d'une une reconnaissance spécifique. C'est des enfants qui fonctionnent différemment. Vous leur posez une question simple, s'ils trouvent que c'est trop simple, ils vont partir dans des méandres infernales, ils vont jamais répondre alors qu'ils connaissent très bien la réponse. Et donc c'est un fonctionnement qui est très compliqué à comprendre quand on ne le connaît pas.
Alors ce fonctionnement... Ce fonctionnement qui est compliqué à comprendre, il l'est aussi à l'école. C'est pourquoi vous avez fait le choix de mettre Mathis dans une école spécialisée, Montessori en l'occurrence. Ouais. Racontez-moi pourquoi les écoles Montessori sont vraiment adaptées à Mathis et aux enfants comme Mathis.
Alors déjà, le choix qu'on a fait de l'enlever de l'école, c'est parce que l'école n'a pas voulu nous écouter, a pas voulu faire de saut de classe, ouais. a pas réussi à mettre en place quelque chose qui était plus adapté.
C'est malheureusement souvent le cas, j'ai l'impression, dans l'école publique, de ne pas vouloir
s'adapter. En tout cas, nous,
s'adapter.
Ça a été assez difficile, même si on a tout fait pour les sensibiliser, mm-hmm. mais ça n'a pas fonctionné. Et moi, j'avais une grosse peur, parce qu'au moment où j'ai appris que mon fils était surdoué, j'en ai parlé à mes parents, un peu pour me justifier, pour leur dire « non, c'est pas parce que je l'élève mal, voilà, il a un fonctionnement différent ». Là, j'ai découvert que mon frère avait testé précoce aussi, mmh. à 10 ans, et que mon frère avait eu les mêmes difficultés, il était allé d'échec scolaire en échec personnel et professionnel, et qu'il avait fini par se suicider. Ouais. Et moi, j'ai eu une énorme peur par rapport à mon fils. Mmh. Et c'est là que le combat est arrivé, en me disant, mon fils n'en est pas sorti, il avait ce profil-là, il faut qu'on trouve une solution pour que mon fils n'ait pas la même fin.
Ouais.
En tout cas, qu'il puisse s'en sortir et être heureux et trouver sa place dans la société. Mmh. Donc, on a cherché toutes les solutions possibles. Et il se trouve que, heureusement, dans notre ville, il y avait un système alternatif qui est l'école Montessori, mais ça aurait pu être peut-être une autre école. Je sais qu'il en existe plein.
Il existe de plus en plus d'écoles dites alternatives, en tout cas qui s'adaptent complètement à ces enfants. Et je dirais que c'est une chance pour tous les parents d'enfants différents de voir la multiplication de ce type d'école. À partir de ce moment-là, est-ce que le regard des autres a un peu changé à partir du moment où Mathis est allé à l'école Montessori? Est-ce que les choses se sont améliorées? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est moins difficile de vivre encore le regard des autres aujourd'hui?
Alors, le regard des autres a changé, oui et non. C'est-à-dire que c'est surtout lui, il a trouvé une place, il a trouvé sa place, il
ouais.
est plus heureux.
Ce qui est méga
il
important.
Fait moins de crise,
ouais.
Il s'adapte mieux. Nous, c'est vivable à la maison. C'est-à-dire que enfin, il rentre de l'école en nous disant « j'ai fait quelque chose », il est content. Il peut bouger à l'école, il y a des profils divers, il n'y a pas que des enfants surdoués à l'école Montessori.
À Montessori, les grands s'occupent des petits, hein, déjà.
Les grands s'occupent des petits, il y a plusieurs niveaux dans la même classe, il
ouais.
Y a des enfants plus faibles, déficients, il y a des enfants surdoués, il y a des enfants normaux, entre guillemets, il y a tous les profils, et en tout cas, chacun peut aller à son rythme. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, parce que chacun peut aller à son rythme, ils ne sont pas tous au même niveau et ce n'est pas grave.
Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui à Mathis, c'est pouvoir aller à son rythme, même si dans quelques domaine, il peut être plus rapide que les autres. Dans d'autres domaines, il le sera moins. Et en tout cas, le fait d'avoir trouvé une école aujourd'hui adaptée à sa vie, à sa manière d'être, c'est une chance. Merci beaucoup, Céline, pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir Jeanne Siofachin, psychologue et fondatrice des centres Cogitos. Elle nous expliquera ce que sont ces centres. Elle est auteure de l'ouvrage « L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir ».
Et Nathalie nous écrit via le groupe de l'émission sur la page Facebook. Alors un extrait du message de Nathalie. Une fois adulte, un ancien enfant précoce ne devient pas un adulte classique qui s'insère de façon traditionnelle. Un haut potentiel peut devenir un véritable handicap à de nombreux niveaux. La société tout entière n'est pas prête.
Europe 1.
Comment vivre avec un enfant intellectuellement précoce? Comment lui vit avec cette différence? Quel est votre quotidien? On a envie de vous entendre sur Europe 1, 39-20. Des enfants à haut potentiel, comment interagissent-ils avec les autres? Vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Jeanne Siofachin. Vous êtes psychologue et fondatrice des centres Cogitos, mais aussi l'auteur de l'ouvrage « L'enfant surdoué, l'aider à grandir et l'aider à réussir ». Bonjour et bienvenue. Bonjour. Sur l'antenne d'Europe 1. Ma première question, en fait, ces centres Cogitos ont quelle mission?
Ah, ce sont des centres de psychologie, hein, ce sont des centres de psychologie intégrative, c'est-à-dire vraiment avec cette volonté de proposer une psychologie qui prenne en compte l'ensemble des facettes de la personnalité de chacun,
oui.
Qui puisse proposer des bilans, c'est-à-dire un bilan, c'est pas juste un test de QI, c'est aussi l'exploration de la personnalité, c'est le fonctionnement de l'enfant, c'est la compréhension de son environnement familial, son environnement scolaire, c'est pouvoir faire une sorte de carte du territoire pour donner à chacun les moyens de cheminer sur sa route et sur le chemin qui lui convient.
De se donner les clés pour se comprendre mieux les uns et les autres finalement.
Oui, exactement. Et puis donc de pouvoir être très proactif et être dans une forme d'efficacité, qui est un mot qui va pas toujours avec la psychologie, mais bon, moi, c'est vraiment mon plaidoyer. Une psychologie efficace, une psychologie concrète, une psychologie qui aide vraiment.
À travers le témoignage de Céline, comme vous l'avez entendu, on avait le discours d'une mère qui combat les préjugés et le peu de prise en charge des enfants précoces. Et puis, ces clichés que l'enfant surdoué serait un véritable génie, brillant en classe et parfaitement à l'aise. Or, on sait que ça n'est pas le cas. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant précoce?
Alors, il se passe beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de différence ou quand on parle de décalage, il faut bien comprendre de quoi on parle. Ce dont on parle, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est un grand mot, en fait. L'intelligence, c'est faire des liens avec plein de choses. Donc, ce sont des enfants qui vont très vite, qui traitent très vite les informations, qui comprennent très vite, oui. Qui ont de grandes capacités d'analyse, qui ont un peu une vision du monde à 360 degrés. On l'a bien entendu dans le témoignage de Céline ou dans le témoignage de Natacha, d'ailleurs. C'est-à-dire donc des enfants qui ont une très grande curiosité, qui ont un besoin de sens, qui ont un besoin de comprendre, qui ont ce besoin insatiable de pourquoi, avec des questions existentielles qui peuvent être très précoces. Des enfants qui ont aussi cette grande sensibilité. Et il ne faut pas confondre la sensibilité avec la sensiblerie. La sensibilité, c'est une forme de porosité au monde. Et ce sont finalement des enfants, et puis on en parlera probablement, des adultes qui vibrent avec le moindre murmure du monde. Donc ils sont tout le temps un petit peu en alerte, avec un grand besoin d'accomplissement, une forme de besoin d'urgence, quelquefois d'impatience, beaucoup d'attente par rapport au monde. Et c'est ça qui peut créer, quand l'environnement n'est pas ajusté, qui peut créer le décalage, et que c'est très important que l'école puisse s'ajuster. Alors, la bonne nouvelle, c'est que là, nous participons à un certain nombre de professionnels, à un groupe de travail ministériel, justement, hein, pour tenter de trouver des réponses pédagogiques adaptées. Mais les réponses pédagogiques, aujourd'hui, elles sont assez pauvres à l'école telle qu'elle est. Et la seule possibilité, c'est de sauter les classes, et c'est... Il y a beaucoup d'enfants qui sautent de classe, mais ça ne résout pas tout à fait le problème parce que dans mon expérience clinique qui est importante aujourd'hui, c'est surtout le besoin de trouver des interlocuteurs qui puissent les alimenter, qui puissent les enrichir, qui puissent répondre à leurs questions. Parce qu'après, quand ça, c'est pas possible, à ce moment-là, on va se retrouver avec, et vraiment, les témoignages étaient très justes, avec une grande intolérance à la frustration.
Une situation d'échec, oui. Une intolérance à la... Alors que, finalement, on se pose la question de savoir pourquoi on ne va pas un peu à la pêche aux idées chez nos amis canadiens chez les Danois, chez les Suédois, où ces enfants différents sont intégrés déjà d'emblée dans le système pédagogique. Docteur Fachin, en fait, certains adultes sont décelés plus tard, on l'a vu, dans leur précocité. Ces enfants précoces, finalement, lorsqu'on apprend qu'ils le sont, que vous disent vos patients de ce que ça change dans leur vie ?
Alors pour les adultes, les adultes disent tous la même chose. Les adultes, ils disent que enfin ça donne, et on l'a entendu aussi avec Natacha, c'est que enfin ça donne du sens. C'est-à-dire qu'enfin, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un nouvel éclairage sur leur vie. Et ça leur permet de relire leur histoire avec cette identification. Parce que c'est pas. Il y a aussi des glissements de sens, hein. C'est pas un diagnostic, c'est pas une pathologie, mais de pouvoir comprendre qu'on a cette forme d'intelligence, cette forme de sensibilité, que finalement quand on avait énormément d'attentes par rapport au monde, eh bien c'était probablement à cause de ça, quand on se sentait en décalage par rapport à l'adolescence. Combien de fois j'ai entendu les ados dire « mais moi j'avais l'impression que j'étais fou ou que j'étais débile » et j'avais l'impression quand j'étais dans un groupe d'ados qu'il y avait comme une vitre entre moi et les autres et que j'arrivais pas à être tout à fait en connexion. Et ça, ça reste longtemps aussi à l'âge adulte et dans les milieux professionnels où souvent ces adultes-là, ils ont énormément d'idées, ils bouillonnent, ils ont énormément d'énergie, ils ont énormément de possibilités, ils ont une pensée qui va effectivement très vite et qui une se pensée... déploie à grande allure.
Ouais, une pensée...
Et puis ils n'arrivent pas à trouver un environnement qui peut finalement leur donner la possibilité, parfois, hein, pas toujours, la possibilité de réaliser ce besoin de faire, d'être. Et comme très souvent je l'ai entendu chez les adultes, une espèce de besoin d'aider l'humanité à mieux vivre.
Et finalement d'arriver à se poser, sans doute comme vous devez le voir et le constater dans les centres Cogitos dont vous êtes la fondatrice. Vous restez avec nous, Jeanne Sieu-Fachin. Je rappelle que vous êtes psychologue et que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir ». Nous allons pouvoir échanger avec Nicolas, qui est le père d'un enfant à haut potentiel. Et au final, Nicolas s'est rendu compte qu'il l'était lui aussi. Donc vous allez pouvoir converser ensemble.
Europe 1.
Vous composez le 39-21 pour nous raconter votre quotidien avec un enfant surdoué. A tout de suite avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Des enfants à haut potentiel, comment interagissent-ils avec les autres ? Vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Nicolas. Bonjour Nicolas, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Alors vous, Nicolas, vous avez donc été diagnostiqué. À quel âge exactement avez-vous été diagnostiqué ?
Il me semble que c'était à 38 ans.
À 38 ans. Vous en avez 39 aujourd'hui.
Non, j'en ai 43.
Ah, vous en avez 43. Bah écoutez.
C'est gentil. Hein.
Bon, bah écoutez, c'est ce qui était marqué sur ma fiche. Donc bon, on vous a rajeuni pour aujourd'hui. Vous dites que vous avez, à partir de ce moment-là, eu besoin de rencontrer vos semblables. Et que cela vous a beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, on parle des enfants. Alors vous êtes un grand enfant surdoué. Et je me demandais, en fait, maintenant que vous savez que vous avez balayé un peu tout ce que vous aviez affronté, comment est-ce que vous allez accompagner votre fils qui en a carrément besoin puisqu'il commence sa vie ?
C'est vertigineux comme question.
Oui, je
Parce
me doute.
Que déjà, ça me ramène à mon propre parcours.
Oui.
Et il faut aussi une certaine forme d'humilité parce que ce qu'il va traverser, ce n'est pas forcément ce que moi j'ai vécu. Et il faut déjà aussi que je fasse attention à ne pas faire un transfert immédiat de ma situation sur la sienne. Mmh. En revanche, j'ai parfaitement conscience de sa grande sensibilité, de son besoin de connaissances et de réponses, de son sens de la justice. Et ces éléments-là, en fait, résonnent en moi. Donc, sur ces points-là, il a une oreille. Toute ma vie, je me suis senti en décalage parce qu'en fait, je pense que j'avais personne qui était capable de comprendre ce que je traversais. Par moments, moi-même, je ne me comprenais pas.
Oui.
Et mon fils a cette chance, je dirais, d'être accompagné.
De vous avoir.
Je m'efforce de ne pas être un guide, parce qu'en fait, son expérience, il doit la faire par lui-même, mais je suis disponible. Et quand il en a besoin, il sait qu'il peut venir me voir et qu'on peut en parler. Et
j'ai envie de vous dire que c'est le rôle, de toute façon, notre rôle de parents. Hein,
oui.
Le vôtre est tout à coup un peu changé de par ce que vous avez découvert et ce que vous avez en commun tous les deux.
Ah oui, parfaitement. Il m'a fallu finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, apprivoiser mon vécu. Mais il y a un point sur lequel je pense que je diffère de ce qui a pu être dit précédemment, c'est que j'ai une approche très pragmatique et je suis conscient qu'aujourd'hui, le monde ne s'adaptera pas à mes enfants Et je m'efforce dans la mesure du possible de leur expliquer que ben, dans un monde parfait, on aurait des écoles, des entreprises, des sociétés qui sont prêtes à nous accueillir comme on est, mais 98% de la population n'est pas comme nous, et c'est à nous de nous adapter. Mmh. Donc je dirais que le gros effort que je demande aujourd'hui à mes enfants, c'est pas de se renier, c'est d'être conscient de ce qu'ils sont, de bien comprendre leur fonctionnement, mais pas tant pour être accepté, mais surtout malheureusement, pour s'adapter, mais sans se perdre, parce que c'est une gymnastique qui peut être très douloureuse. On parle souvent justement de ce fameux faux self, et Jeanne Siofachin en a pas mal parlé aussi dans ses écrits, et c'est quelque chose qui heurte beaucoup de personnes comme nous, c'est qu'on est en permanence en train d'essayer de répondre aux attentes du monde autour de nous, en nous conformant à ce qu'on attend de nous, et c'est une contorsion qui est très très douloureuse. Mais je pense que l'équilibre, c'est d'être suffisamment soi, sans pour autant être en opposition systématique avec un système qui ne fonctionne pas comme nous.
Et cela a impacté votre vie d'adolescent, de jeune adulte, comment en fait votre rapport à l'autre a été compliqué?
Aussi longtemps que je me souviens, je ne me suis jamais senti bien en société. J'ai grandi en me demandant si je n'étais pas une sorte d'extraterrestre qu'on avait oublié sur cette planète par hasard et qu'on n'allait pas tarder à venir chercher. Oui. Et mon test m'a permis de me dire non, je ne suis pas fou, non, je ne suis pas un extraterrestre. J'ai des singularités, mais disons qu'en étant conscient de ça, j'ai su sur quelle piste j'allais pouvoir accentuer mon travail personnel. Par exemple, quand le cerveau fonctionne beaucoup, il faut revenir au corps. Donc, je me suis mis à la méditation, j'essaie de me ramener aux sensations pour essayer de chinter un peu mon cerveau, et de faire aussi un peu la paix avec mon vécu en termes de relations sociales, pour me dire que ce n'est pas un échec, c'est simplement une suite d'incompréhension. Je suis assez extraverti, je vais facilement vers les autres, mais je ressens quand même toujours cette forme de décalage aujourd'hui encore, que ce soit dans le monde professionnel ou même dans ma vie privée.
Merci mille fois, Nicolas, pour votre appel et votre témoignage qui nous éclaire beaucoup sur ce que peuvent vivre ces enfants en surdouance, ces adolescents, puis ensuite ces adultes. Dans un instant, nous serons avec Charlotte, cadre dans un grand groupe. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 33 ans. Elle aurait vraiment aimé le savoir plus tôt.
Europe 1. Nous parlons des enfants à haut potentiel, comment vivre avec cette différence. Ça tout de suite sur Europe 1. Vous retrouvez Olivier Delacroix et nous parlons des enfants à haut potentiel, comment vivre avec cette différence.
Et nous accueillons maintenant Charlotte. Bonjour Charlotte, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci beaucoup.
Je vous en prie, vous avez 38 ans, et vous venez de Bretagne.
C'est ça.
Vous dites que vous avez été diagnostiquée autour de l'âge de 33 ans. Et que cela vous a beaucoup soulagé. Dites-moi pourquoi.
Je pense que c'est un peu comme l'auditeur précédent. Je ne me suis jamais sentie à ma place, toujours en décalage. À l'école, je n'ai jamais eu de soucis, mais on n'a pas particulièrement mis en avant le fait que j'étais surdouée. Oui. Et c'est arrivé dans le monde du travail où je me suis sentie complètement en décalage. Mm-hmm. Je pense que c'est aussi ce que disait Jeanne Siofachin. Avec cette envie de sauver le monde, sauver l'entreprise.
Vous êtes cadre dans un grand groupe, hein ?
C'est ça.
Et mais qu'est-ce c'est que c'est être décalé, en fait, lorsqu'on est cadre dans un grand groupe ? C'est quoi ?
Ça sera vu comment ? Ne pas rentrer dans le moule de l'entreprise, ne pas répondre aux critères, en fait, aux codes, et ne pas les comprendre, surtout.
Ouais. Est-ce que vous aviez cette sensation d'aller plus vite que les autres ?
Plus vite, surtout de voir les erreurs en fait qui sont faites ou ce qu'on devrait changer pour que ça aille mieux et plus vite, et que les personnes ne sont pas prêtes à l'entendre ou ne le comprennent pas.
Justement, nous sommes avec Alexandre qui est un adolescent précoce. Il a 147 de QI. Bonjour Alexandre, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Vous dites, vous Alexandre, que vous n'avez pas de difficultés particulières, que c'est plus finalement au niveau social que vous ressentez cette différence et que vous ne comprenez pas pourquoi c'est à vous de vous adapter en fait aux autres.
Oui, c'est ça en fait. Alors j'ai eu quand même quelques difficultés déjà en maternelle, à passer, à être souvent tout seul. Après, au fur et à mesure, là maintenant que je suis au lycée en seconde, l'école, bon, bah il faut bien rentrer dans le moule, ce qui est encore un peu dur. Ouais. Mais c'est ça. Au niveau social, je préfère être avec des personnes plus âgées que moi. Voilà. plutôt que d'être avec des gens de mon âge. Alors j'ai des amis quand même, mais pendant toute ma primaire, j'ai été beaucoup avec mes enseignants.
Oui.
Et c'est d'ailleurs une de mes enseignantes en CM1 qui a demandé à mes parents de me faire diagnostiquer comme un enfant.
Vos parents n'avaient pas vu, en fait?
Non, pas du tout, pas du tout. Et en fait, c'est en ayant découvert que moi-même, j'étais au potentiel, que ma mère, après, a fait le test aussi et finalement a été diagnostiquée comme moi.
Lorsque vous entendez Charlotte, cadre dans un grand groupe, parler de sa difficulté à rentrer dans le moule, à respecter les critères et finalement voir les erreurs plus vite que les autres, est-ce que c'est un peu ce que vous vivez, vous, au collège?
Je pense pas, parce que il faut rentrer dans le moule, ça, c'est, on me l'a toujours dit, on me l'a forcément répété. C'est la majorité, entre guillemets, qui l'emporte dans l'éducation nationale. Donc c'est un peu ce que je vis. Après, bon, à l'école, j'ai aucune difficulté d'apprentissage, je suis correcte. Je pense pas. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller beaucoup plus vite et d'être déjà dans une entreprise.
Je me retourne vers vous, Jeanne Siofachin. On demande à ces enfants en surdouance et à ces adultes aussi, on l'a vu avec Charlotte, de rentrer dans le moule. Pourquoi ça, en fait? Et ça doit leur poser un problème tout le temps, ça?
Oui, ça demande effectivement beaucoup d'énergie, parce que les attentes du groupe ne sont pas les attentes de la personne surdouée, qu'elle ait 8 ans, 5 ans, 12 ans ou 60 ans. Et donc effectivement, les témoignages ont été formidables, tout le monde a bien souligné cette vitesse, ce besoin de donner plus de sens, d'aller toujours chercher au-delà, de comprendre des choses que les autres ne comprennent pas forcément, de vouloir réaliser ce qui doit être fait. Et moi, je trouve ça très douloureux. Enfin, moi, ça me touche, parce que je l'entends beaucoup en consultation, mais quand j'entends ces enfants ou ces adultes dire il faut qu'on s'adapte, moi ça me fait mal, ça me touche, parce que je crois que ils ont tellement apporté au monde, ces enfants et ces adultes là, et finalement s'intéresser à ces enfants et ces adultes, c'est un bénéfice pour tout le monde, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter, comme chacun de nous a quelque chose à apporter, bien sûr. Mais c'est important de les entendre et de les comprendre pour bien les accompagner. Et le papa disait tout à l'heure, le fait de pouvoir s'identifier aux autres, c'est-à-dire avoir d'autres personnes avec lesquelles on peut partager, ou enfin on n'a plus besoin d'expliciter pendant des heures sa pensée, de dire pourquoi on comprend comme ci ou comme ça, et se sentir compris tout de suite, c'est un soulagement énorme.
Et c'est important de savoir, Jeanne Siofachin, que vous êtes avec vos collègues en train de travailler à améliorer les conditions d'accueil dans l'école et puis dans notre société, pour que ces enfants, ces adolescents, ces adultes qui apportent tant au monde, comme vous le dites, soient de mieux en mieux. Merci mille fois pour vos éclairages, madame. Merci aussi à Charlotte, à Alexandre, à Natacha, à Céline, à Nicolas de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, on comprend qu'être intellectuellement précoce à haut potentiel, c'est se poser beaucoup de questions sur soi et sur le monde qui nous entoure. On l'a vu avec Charlotte et Nicolas, notamment poser le diagnostic le plus tôt possible est important pour qu'enfants et ensuite adultes, on ne se sente pas à la marge et incompris. Ce qui compte, c'est que la surdouance ne devienne pas un handicap et que l'enfant, puis l'adulte concerné, puisse exprimer pleinement son potentiel. Si votre enfant vous semble intellectuellement précoce ou qu'il l'est, il existe des structures, des associations spécialisées qui sont là pour vous orienter, vous conseiller, comme l'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces ou l'Association française pour les enfants précoces. Vous pouvez continuer à en débattre. Vous êtes très nombreux à en débattre déjà sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Vous n'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Merci Omblin et Olivier Delacroix. On vous retrouve demain pour partager de nouvelles expériences de vie dès 15h. Vous pouvez réécouter cette émission et les autres aussi sur europe1.fr. En attendant, bien sûr, votre journée continue avec l'arrivée de Laurence Boccolini. Laurence qui vient jouer avec vous, mais qui vient jouer aussi avec l'homme aux mille métiers, Manu Payette, jusqu'à 17h. Alors bon après-midi avec Europe 1. Europe 1.